Allez, allez, montre-nous. Allez, montre-leur, allez, allez.
Allez, allez, durcis ça.
C'est maintenant, c'est maintenant. C'est maintenant, c'est là.
Allez, durcis, durcis. Ouais,
comme ça, Steve.
Allez, Steve, hein.
Allez,
Derek. Il sort d'où, celui-là?
Les filles, vous m'entendez?
Yes, yeah, we hear you.
Please, I need help.
Oh, je déconne.
Allez. Une heure.
Say it again.
Una are to vous.
We're gonna be fine.
Now, go away now.
Allez, action!
Help me!
Action, pourquoi faire?
Ça fait mal, lui demande sa fille au lendemain d'un match. Ça fait pas mal, dit-il. C'est un plaisir. Un plaisir et beaucoup d'autres choses, émotions, état d'âme et solitude d'un ouvrier du ring sur notre affiche ce matin. Bonjour tout le monde et salut Laurent.
Bonjour Christine, bienvenue à toutes et à tous.
Il joue, il écoute, il répond, il agit, comme un boxeur. Bonjour Mathieu Kassovitz.
Bonjour les amis.
Steve Landry dans Sparring, premier film de Samuel Jouy, qui a trouvé la bonne distance pour filmer la boxe, la belle métaphore de la vie. Sparring ou comment être un loser dans son sport sans être un perdant dans la vie, il sort mercredi prochain. Elle voulait être actrice et a noyé ses rêves dans une vie médiocre. C'est le thème de Wonder Wheel, le dernier Woody Allen, et cette femme brisée, c'est Kate Winslet qui l'incarne magnifiquement. Nous l'avons rencontrée. Des femmes et de sacrés destins, il y en a dans cette nouvelle semaine de sortie. Duras, Fortunata, Anna, Marie Curie, une Catherine Graham, aussi patronne du Washington Post, dans le nouveau Spielberg Pentagon Papers. Mathieu, vous êtes prêt?
Toujours.
C'est parti.
C'est quoi Sparring?
Sparring, ma chérie, c'est quand un champion comme Tarek engage des boxeurs comme ton père pour leur péter la gueule pendant un mois, tu vois? Genre bien.
Mais n'importe quoi.
C'est pas ça?
Non, c'est pas ça.
Comme ça, le champion, il se prépare pour son combat et les autres, ils finissent en chaise roulante en général.
C'est vrai?
Non, c'est pas vrai. Tu fais peur à la petite pour rien. Hein.
C'est pas ça, Steve?
Non, c'est pas ça.
C'est vraiment pas ça.
Mais non, tu dis n'importe
c'est
quoi.
C'est ça? C'est quoi alors?
Juste pour faire peur à la petite. Non, c'est pas vrai. Bien sûr que c'est pas vrai.
Alors, tout ce que tu m'as raconté, c'est quoi?
Peut-être que je veux discuter.
Le sparring, c'est quand un boxeur il a besoin de s'entraîner. Toi, tu t'entraînes avec lui. Mais ça va, c'est pas
vrai. Arrête, Steve. Arrête. Tu sais que si un jour tu finis comme un légume, c'est pas moi qui viendrai faire ta petite infirmière.
Arrête.
T'entends?
Finir comme un légume. Faut pas finir comme un légume, pourquoi tu dis ça?
Mathieu Kassovitz, Steve Landry est un boxeur qui a perdu plus de combats qu'il en a gagné, 33 sur 49. Avant de raccrocher les gants, il accepte ce que beaucoup refusent, de devenir sparring partner d'un grand champion. Apprendre à boxer était l'une des conditions pour accepter de faire ce film. Boxer pour faire vrai.
Non, boxer, déjà pour apprendre à boxer.
Déjà. Ah oui, déjà par plaisir alors.
Bah, par plaisir, parce que c'est pas un sport qu'on peut faire d'une manière contrainte, donc il faut absolument y trouver du plaisir. Moi, c'est un sport que j'avais envie de découvrir, et ce film m'a permis d'aller au bout de ma démarche.
Et pour, quand je dis pour faire vrai, parce que le cinéma c'est faux, et là c'est pour faire vrai dans du faux.
Là, enfin, on n'est même plus dans le vrai ou dans le faux. Le problème, c'est que... On parle d'un sujet de gens qui sont dans la transpiration et dans les coups et qui prennent des coups. Donc moi, en tant qu'acteur, comment je peux me préparer pour un tel rôle? Soit je vais sur le bord d'un ring et je regarde comment font les boxeurs, j'essaie de les imiter, je parle avec eux. Soit j'apprends la boxe, leur discipline, je rentre dans leur univers et puis j'apprends à prendre des coups et à en redonner, quoi. Et puis je comprends surtout ce que ça veut dire de poser le genou, de ne pas réussir là où on devrait, on voulait, et puis continuer, se lever et puis revenir le lendemain.
C'est le plus gros entraînement que vous ayez fait pour un film?
Bah, c'est le seul, oui.
Ah, c'est le seul?
Je sais pas, pour une... Non, c'est pas le seul, c'est pas vrai. J'ai fait pour mon film L'Ordre à la Morale, oui. qui est avec le GIGN, où j'ai travaillé pendant plusieurs mois avec le GIGN, et j'ai fait énormément de stages, j'ai appris le maniement des armes, j'ai appris la balistique, j'ai appris la survie à plusieurs... ça fait partie du... C'est vraiment, pour moi, le seul intérêt vraiment du travail d'acteur, c'est de pouvoir rentrer dans la vie des autres et découvrir.
Vos modèles, c'est Jackie Chan, c'est Keaton, Chaplin, mais plus près de nous, moi je dirais Belmondo, Dupontel, Tom Cruise.
Tous ces gens qui s'engagent d'une manière un peu plus physique.
Ouais.
C'est pas la même chose entre... Enfin, ce que fait Tom Cruise est très fort, parce qu'il prend énormément de... Enfin, c'est quelque chose de... il met tout au niveau de... Non, c'est vrai que c'est tout à fait des gens qui mettent leur santé, qui mettent leur énergie, qui mettent tout pour l'écran, et juste pour que les gens soient le plus possible avec eux. Ouais, c'est vrai.
La boxe, c'est ici et maintenant, c'est du direct. Vous, votre métier, c'est du différé. Le cinéma, c'est du différé. Vous n'avez jamais fait de théâtre à ma connaissance.
Radio est en direct.
Voilà. Vous n'avez jamais fait de théâtre. Vous n'êtes jamais confronté à un public en direct.
Non.
Et la boxe, c'est ça?
La boxe, non, c'est pas le public. On s'en fout du public quand on fait de la boxe.
C'est vrai?
Oui, on s'en fout complètement.
Il y en avait du public d'ailleurs. Pendant le tournage, il y en avait du public.
Oui, mais vous avez un problème, il est en face de vous, il est dans le même carré. Le public, c'est le moindre de vos problèmes. Le public, c'est, vous y pensez parce que vous voulez pas être ridicule. Vous avez votre famille dans la salle, vous avez vos amis, vous ne voulez pas être ridicule, mais vous ne faites pas ça pour le public, vous faites ça pour vous. Vous faites ça pour savoir où vous en êtes dans votre vie, vous savez, pour savoir pour est-ce que vous avez une grande gueule, est-ce que vous l'assumez après, qui êtes-vous, quoi. Et la boxe, c'est ça, c'est un révélateur de ça. Mais vous pouvez pas vous révéler en boxe sans aller au combat. Vous pouvez pas vous entraîner pour un sport ou vous entraîner pour un métier sans prendre le risque d'y aller, quoi. Donc la boxe, ça fait partie de ces métiers que j'avais envie de découvrir.
Justement, il y a Kirk Douglas, Burt Lancaster, Paul Newman, Bruce Willis, Chaplin, Keaton, Gabalt, tous ceux-là ont fait des rôles de boxeurs. Ça vous a appris quelque chose sur... C'est comme une étape importante, en tout cas pour tous les acteurs que j'ai cités, il fallait passer par ce rôle de boxeur.
Tous les acteurs ont le fantasme de faire, de jouer un rôle de boxeur. Bon, le problème des acteurs, c'est que on vit encore
Michel
une fois...
Michel Bouquet, je suis pas sûr, quand même. Enfin, je parle de ça.
Michel Bouquet, il voulait faire le rôle d'un ministre. Et c'est la même façon de s'intégrer maintenant. Qu'est-ce qu'on disait là?
Eh ben, par rapport au fait de, c'est un passage, comme tous ces acteurs.
Non, c'est un fantasme, c'est un passage. C'est vrai que, il n'y a rien de plus réel qu'un boxeur. Moi, les combattants que je connais sont des gens qui vous aiment ou qui ne vous aiment pas, ils seront toujours très 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 droits dans leur façon de se comporter avec vous. Et cette réalité là auquel ils sont confrontés, qui est leur propre, ce qui vraiment fait de nous, des êtres humains, un acteur est souvent en manque de ça, parce que la vie d'un acteur est beaucoup plus passive qu'on ne le pense. Un acteur ne choisit pas ses rôles, c'est les réalisateurs qui le choisissent pour des rôles. Un acteur ne décide pas de son timing sur un tournage, on le sort de sa loge, on lui demande de faire son texte et il repart. Il y a une dichotomie entre le pouvoir qu'ont les acteurs et la réalité de leur vie. Donc je pense qu'il y a beaucoup d'acteurs que vous fréquentez dont vous ne savez pas, qui ont des hobbies extrêmement ancrés dans la réalité, que ce soit la terre glaise, la menuiserie, l'éducation canine, les enfants, ou n'importe quoi qui soit ancré dans la réalité, parce que c'est très difficile de vivre complètement dans le fantasme.
Mais il n'y a pas de sparring dans le métier de comédien, il n'y a pas des gens qui...
Si, il y a des sparring.
Comme des coachs, alors,
Non, ce qu'on appelle des seconds couteaux, il y a des gens qui sont là pour donner la réplique, et c'est des acteurs magnifiques. Carrette a été ça dans les années 40, on en a eu plein, et il y en a un qui est un acteur magnifique qui a tourné avec nous sur ce film, qui s'appelle Yves Afonso.
On va lui rendre hommage tout à l'heure. Voilà,
qui est parti malheureusement il y a quelques jours, et qui fait partie de ces combattants du cinéma, des gens qui n'ont jamais été en haut de l'affiche, mais qui continuent de travailler, besogneux, et de se faire plaisir. Vous connaissez pas leur nom, vous connaissez leur visage, vous les croisez, vous dites « Ah, je vous ai déjà vu quelque part ». Et vous vous dites « Tiens, c'est quelqu'un qui a une vie très modeste ». Et quand vous allez chez eux, qui est effectivement des endroits assez modestes, vous voyez malgré tout sur les murs derrière eux, des trophées, une vie remplie de choses absolument incroyables, mais ils ont su accepter le destin qu'ils se sont créés eux-mêmes, quoi.
Chez le sparring, donc, chez votre personnage, Mathieu Kassovitz, il y a une idée d'abnégation, souvent condamné à perdre, donc parfois même dans des combats plus dangereux que des vrais combats que eux meneraient. C'est un type passionné, ce Steve, l'art pour l'art. D'ailleurs, il va tenter de conseiller le champion qu'il doit sparer, je sais pas si le terme existe, Tarek Mbarek, qui est incarné par Souleyman Mbey. Ancien champion du monde des super légers, c'est une super scène, c'est sur la plage, vous l'avez suivi dans sa course.
Bon alors, qu'est-ce que tu voulais me dire?
Je voulais dire que ce sparring, c'est important pour moi, pour ma famille.
Stop. Je suis pas le resto du cœur, mec. J'ai un championnat d'Europe à préparer. Tu vois ça? C'est sérieux.
c'est mon retour. J'ai pas le temps des états d'âme. Ce combat-là est super important, faut que j'ai des gens au top avec moi.
Je respecte, je comprends complètement. Ce qui s'est passé hier, j'étais nerveux. C'est la première fois que je fais un sparring, je...
Arrête, mec. T'étais pas là.
J'étais nerveux. Mais tu peux compter sur moi, tu peux y aller.
Toi, pour faire le sac. Le sac de frappe, j'en ai plein à la salle.
Je suis pas un sac. Je suis pas un sac. Je suis un boxeur, tu vois, je prends des coups, mais je suis pas un sac. Par contre, j'ai un truc que t'as pas.
Ah ouais?
J'ai pris les KO. Je suis retourné sur le ring. Et je peux te dire un truc. C'est que toi, t'as peur. Tu t'es pas remis de ton KO. T'as peur de prendre des coups, je l'ai vu. Et je te dis un truc. Tu le sais pas encore, mais il y a un avant et un après. Pour tous les boxeurs. Avant le KO, après le KO. Et toi, tu sais pas encore comment tu vas être.
Bon, mais t'inquiète pas pour moi.
Ouais, je m'inquiète pas pour toi. Mais je te le dis, je t'ai vu. Et si tu vas sur le ring avec Mathis comme ça, il va te défoncer. Tu vas danser pendant 3 rounds et à un moment, il va t'attraper, il va te mettre dans un coin, il va te taper. Si t'as peur, il va te casser en 2. Ben, crois-moi, si tu l'as pas digéré, tu ne deviendras jamais le champion que tu as été.
Un extrait donc de Sparring, Mathieu Kassovitz, s'adapter au jeu de l'adversaire ou jouer son propre jeu. Ça marche aussi pour l'acteur, ça?
Il faut les deux. C'est-à-dire qu'il faut déjà être sûr de... Oui, c'est tout à fait adapté à l'acteur. Il faut jouer son jeu à soi. Si vous voyez les grands acteurs, c'est les gens qui viennent avec leur personnalité, donc on ne peut pas jouer avec la personnalité d'un autre. Mais il faut s'adapter aussi à la personne à qui on est en face, parce que il faut s'adapter à ses capacités, à son talent. Combien de fois des acteurs jouent leur scène et aident l'acteur en face qui a un trou de mémoire ou qui n'est pas à l'aise avec une scène, c'est des choses qu'on fait et le sparring, ça fait partie de ça aussi.
C'est marrant, je vois une petite ironie dans votre...
Quoi? Pourquoi?
Non, mais vous êtes vachement expressif.
Vous avez déjà été KO?
Oui, bien sûr.
Et alors, ça fait quoi?
Ben, il y a 2 KO, il y a le KO fois qui... Faut parler en boxe.
Oui, on va parler d'autre chose après, si vous voulez bien.
Il y a le KO foie qui coupe la respiration et qui a une douleur très, très... C'est très, très insupportable, ouais. Qui vous oblige à poser le genou. Et puis, il y a le KO du cerveau, qui fait un knock-out complet, où la lumière s'éteint, vous réveillez 2 minutes après, ou 30 secondes après, en disant que tout va bien, on continue le combat.
Et votre nez, vous avez eu peur pour lui, hein?
Ouais, mais j'ai appris à boxer justement en conséquence. Il faut voilà, Souleymane Mbaye qui est donc double champion du monde et champion d'Europe qui est un artiste, un des top dans l'histoire de la boxe française et dans le monde aussi parce qu'il a une boxe très spéciale, il m'a appris que la boxe c'est pas prendre des coups, c'est les éviter et les rendre. Donc pour les éviter et les rendre, il faut pouvoir bouger, il faut rester attentif, il faut être intelligent. C'est pas un truc de c'est pas du tout le personnage que j'ai appris. Moi, la boxe que j'ai appris dans le film, qui va avec le personnage, est une boxe de cogneur et une boxe de quelqu'un qui prend des coups et qui est vraiment très basique. Et il m'a dit non, on peut pas faire ça. Mais moi, j'ai appris la boxe comme le personnage, une boxe très rugueuse. Et donc j'ai dû prendre des coups parce que c'était pas une boxe de danseur où je pouvais éviter. Mais après, moi j'ai commencé à développer ma propre boxe, qui est une boxe où je bouge plus.
La boxe est photogénique, dramaturgique, métaphorique, je disais, par rapport à la vie. Je verrais bien vers un film là-dessus.
Ben je viens d'en faire un.
Oui, certes, mais à réaliser.
Écoutez, vous savez... L'important, c'est de participer. Quand on est dans un bon film, il vaut mieux. Il vaut mieux. Non, mais que ce soit stagiaire, que vous fassiez du son, ouais. Que vous fassiez du montage, vous êtes fier d'avoir participé à un bon film. Quand vous l'avez fait, vous n'êtes pas forcément obligé d'en faire un autre poste. C'est pas intéressant. Donc moi, j'ai fait un film sur la boxe que j'aurais pu réaliser en tant que réalisateur. J'aurais aimé réaliser ce scénario. Je le trouve vraiment très très bien écrit. Mais je suis très heureux. Si j'avais été réalisateur, j'aurais voulu. Jouer dedans.
Ce qui est bien, c'est que vous avez improvisé ces combats. Effectivement, vous n'avez pas fait de choses chorégraphiées. On partait sur une idée et il fallait...
Non, c'est pas ça. C'est, en fait, on s'est dit, voilà, le principe, c'est... Il m'a présenté le scénario, je lui ai dit, je trouve ça très, très beau. L'histoire est très belle, l'histoire de ce père de famille qui doit rester digne malgré ses défaites. et qui doit faire passer l'amour de son art à sa fille. Ça, j'ai trouvé ça, cinématographiquement parlant, intéressant. Après, je lui ai dit, on peut pas faire un film sur un ouvrier sans mettre les mains dans le cambouis. Donc, faire des faux combats, ouais. J'ai le choix de passer 3 mois à faire de la chorégraphie, à apprendre à éviter les coups, à faire semblant de tomber, ou apprendre la boxe. Voilà. Donc, comme je vous le dis au début, je pense pas qu'on peut pas se préparer pour un rôle de boxeur, je pense, sans faire de la boxe. Sauf les boxeurs historiques. On peut pas faire Mohamed Ali et essayer de boxer comme Mohamed Ali. Et en plus, on va certainement avoir affaire à des combats historiques, donc on va imiter ces combats-là. Donc on est obligé de faire de la chorégraphie. Nous, on était vraiment dans le critérium du samedi soir, quoi. Les petits, donc on est obligé d'être dans le vrai.
En même temps, c'est plus dur le cinéma parce que en boxe, c'est à la suite, les rounds les uns après les autres. Parce que là, vous faites un combat, il faut arrêter parce qu'il reprise et refaire la scène. C'est presque plus crevant, non?
Non, parce que la différence entre le cinéma et la boxe, par exemple, pour tous les gens qui veulent faire un rapport, c'est que quand on rentre dans les 3 minutes de round en boxe, on peut pas dire pouce. Je m'arrête, je suis fatigué. On va jusqu'au bout. Et si on peut pas aller jusqu'au bout, on se fait blesser. Donc ça demande une rigueur totale et c'est un danger réel. Le cinéma, il n'y a aucun danger. Les acteurs qui vous disent qu'ils se mettent en danger... n'ont jamais fait un autre travail de leur vie. Quoi.
J'ai pas employé l'expression.
Non, parce que se mettre en danger psychologiquement, parce que tu dois faire un clochard et que tu dois aller traîner dans la rue un peu. Oui, d'accord, mais tu peux pas te mettre en rapport avec ces gens-là. Tu veux vraiment comprendre, ouais. Va vivre dans la rue, quoi. Mais tu peux pas dire que tu es troublé psychologiquement après.
Sparring est aussi un film sur la transmission que vais-je transmettre à mes enfants si ma vie professionnelle est un échec. Lui, il est convaincu de pas avoir le truc, le don. Il espère que sa fille là en piano. On va écouter une scène entre vous deux.
Qu'est-ce qui t'est arrivé? Raconte-moi.
Tu t'es battu?
Dis-le. Qu'est-ce qui s'est passé?
Quelqu'un t'a insulté à l'école.
Qui m'a insulté?
Un quatrième. Son père t'a vu boxer et...
Et quoi? Et quoi?
C'est un gros mot.
Quel gros mot?
C'est un gros mot, je vais m'engueuler.
Quel gros mot?
Son père a dit que t'étais une grosse merde.
C'est lui qui t'a tapé en premier?
Non.
C'est toi qui l'as tapé en premier? Aurore, on tape jamais les gens en premier.
Mais il t'a insulté.
Et alors? T'es pas capable de prendre une insulte? Va dans ta chambre. Et je t'apprendrai plus les combinaisons, moi.
Ah, elle est magnifique.
Elle est bien, cette fille. Hein.
Elle est magnifique.
Billy Blin, elle est...
Ouais. C'est une petite comédienne.
C'est toujours épatant,
quand on découvre des enfants, j'ai eu la chance de tourner avec 2 enfants incroyables sur le film de Haneke, qui est avec une petite fille incroyable. Et là aussi, Billy, qui est encore un autre style d'animal, qui est vraiment très étonnant. Elle, on va la retrouver, c'est sûr. Ça va être une star, parce qu'elle a une intensité et un réalisme. J'ai joué des scènes avec elle où j'étais... première fois de ma vie où j'avais vraiment l'impression d'être dans une situation où il fallait que je m'explique avec ma fille, quoi. C'est très, très, très intense.
Vous êtes père et vous êtes père aussi dans le Bureau des Légendes. Ouais. Et c'est drôle parce que on va vous faire écouter un extrait, c'est-à-dire boxeur ou agent de la DGSE, c'est un autre rapport, un autre ton. C'est un extrait avec votre fille dans le Bureau des Légendes.
Ma mission, c'était de lier connaissance. Je devais fréquenter des gens dans un certain milieu, les observer, les connaître, et voir s'ils avaient accès à des informations qui pouvaient nous être utiles. Si c'était le cas, je devais essayer de trouver un moyen de les convaincre de nous donner ces renseignements.
Tu les faisais chanter?
Non, fais pas chanter les gens, ça marche pas, ça. Non, c'est des gens qui veulent aider la France ou faire avancer leur cause. Moi, mon seul travail, c'était de trouver des gens intéressants, c'est tout.
Tu devais te faire des amis, quoi.
Disons des connaissances.
C'est pour ça que t'es parti 6 ans. Pour faire des connaissances.
T'aurais préféré que je parte pour tuer des gens?
Ouais. Enfin non, je sais pas.
Bon, j'ai l'impression d'écouter un extrait de film, là, en gros. Non mais c'est vrai, le Bureau des Légendes, ça a une force cinématographique, grand scénario.
C'est très 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 fort, ouais. Je suis d'accord avec vous.
Malotru, on va le retrouver. Donc vous avez commencé à tourner la saison 4.
Il commence la semaine prochaine.
Ça vous attire, vous, les séries à tourner? Je veux dire, en tant que réal.
Écoutez, je vous donne la même réponse que je vous ai donnée tout à l'heure. quand vous avez chance de travailler sur quelque chose de bon, remercier qui de droit et voilà, c'est tout. J'ai pas besoin de moi de me relancer. Je vois le travail que c'est la série. Je suis très très content de participer à une série aussi importante et aussi forte. Franchement, je m'en contente.
D'ailleurs, il y a un agent de la DGSE qui vous a félicité de ce point de vue.
À quel niveau ?
Ben, par rapport à votre prestation.
Oh non, la DGSE entière nous a félicité dans l'ensemble, pas que moi, mais les autres acteurs, Eric, la production, on a été, ils nous accueillent chez eux. Et ce qui est intéressant, c'est qu'on leur dit, oui, mais qu'est-ce qui est vrai, qu'est-ce qui est faux ? Et ils nous disent, on peut pas vous dire ce qui est vrai ou ce qui est faux. Mais tout ce qu'on peut vous dire, c'est que vous êtes dans le juste. Voilà. Mmh. Donc ça, c'est notre fierté. Enfin, moi, c'est mon cinéma, c'est ça que j'aime, être dans le juste.
Tout à l'heure, vous citiez Haneke. Est-ce que vous avez un souvenir lié à La Pianiste ?
Oui, j'en ai, bien sûr.
Mais c'est le film que vous préfériez à l'époque ? Ouais. Mais c'est pas celui qui a eu la Palme d'Or.
Non, mais bon, on était tombé sur une très mauvaise année à Cannes. Il n'y avait pas de très 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 bons films. Et Le Pianiste, par contre, La Pianiste était vraiment... un film d'une force incroyable. Donc... on cherchait qui pouvait gagner. Elle, évidemment, elle allait gagner parce qu'elle faisait une performance vraiment qui lui restera. Ouais. Et puis, moi, j'ai dit oui, mais si elle a fait ça, c'est forcément que le réalisateur est bon aussi derrière. Donc, c'est passé. Puis après, on trouvait pas qui pouvait être le meilleur acteur. Et donc, j'ai dit, si elle a joué avec lui et que lui, il a fait ça avec elle, peut-être que lui, on devrait aussi lui donner. Et donc, ils ont eu les trois prises, qui n'arrivera plus parce qu'ils ont changé les règles depuis.
Mais la Palme d'Or, cette année-là, c'était La Chambre du Fils.
Et la Palme d'Or, c'était La Chambre du Fils.
Vous voyez, vous vous rappelez même pas. Tout ça pour dire que peut-être qu'à Gérard May, vous serez président du jury. Vous pourrez imposer votre voix, Mathieu, du 31 janvier au 4 février, 25e édition.
Écoutez, je me suis fait arnaquer, je crois, on m'a dit film fantastique et je suis tellement arriéré que je pensais qu'on était encore à Avoriaz et que j'allais faire du ski. Parce que j'ai les rappels à l'époque quand j'allais au festival d'Avoriaz avec mes potes pour aller découvrir les premiers films fantastiques, mais dans les années 80, c'était vraiment au tout début.
Parce que là, c'est raquette dans les bois. Hein,
j'ai vu c'est raquette dans les bois, donc je vais être obligé de me taper 3 films par jour et je pourrais pas éviter. Non, mais c'est cool, ça me fait plaisir. J'aime pas les festivals, j'aime pas être truc, mais là, j'avais besoin un petit peu de partir en vacances aussi.
Juste une question, pourquoi c'est si compliqué, je sais pas si vous avez la réponse, pourquoi c'est si compliqué de produire des films de genre fantastique en France ?
Parce qu'ils le font mieux ailleurs.
D'accord. Mais écoutez,
il faut qu'on trouve. Nous, on a un style on a un genre de cinéma, ça s'appelle le cinéma français. Mmh. On fait un style de cinéma qui nous est propre. Je pense que essayer de faire ce que font les Asiatiques ou les Américains ou tous ces gens qui font avec plus de moyens, plus d'ingéniosité, surtout qui ont une histoire de cinéma de genre, ça ne peut pas marcher. Malgré tout, si on arrive avec nos particularités, on peut intéresser. Je sais qu'il y a un film. J'ai un copain qui a produit un film qui s'appelle La Brume, je crois, ou Paris, ou là, bon, je sais plus. Enfin, c'est avec. D'accord, je me suis planté, mais je pense qu'il y a de la place pour les films de genre. Je pense qu'il y a le public aussi. Il faut juste que ce soit pas d'une manière trop épisodique, parce qu'on n'a pas le temps de. On peut pas assimiler un genre s'il n'est pas un genre. Je pense qu'il faut qu'il y ait plus de films de genre en France.
Oui.
Et il faut prendre le risque. Il faut y aller. Je pense que le public sera là. Mais il faut trouver notre singularité.
Merci. Le film s'appelle Sparring. Il sort mercredi prochain. Vous restez avec nous, Mathieu. Et avant d'écouter Rex Orange County, on va livrer un dernier hommage à Yves Afonso, qui a été votre dernier partenaire, et vous avez été son dernier partenaire. Et on a pris un extrait, on a choisi un extrait d'un de ses plus grands films, c'est Men Océan.
Ouais.
Le 21 juin 1984, votre véhicule est entré en collision avec le véhicule de Lucien Vallée, quincaillier à Briolet, Maine-et-Loire, à la suite d'un dépassement dans un virage sans visibilité. Lucien Vallée vous a demandé d'établir un constat à l'amiable et vous vous êtes jeté sur lui en déclarant « Ton constat, tu pourrais bien te le mettre quelque part, j'ai bien autre chose à foutre. » Devant son insistance à vouloir établir un constat, vous vous êtes jeté sur lui et vous lui avez porté 2 coups de poing au visage. Et il en est résulté une incapacité de travail d'une semaine constatée par le docteur Morin. Alors qu'avez-vous à dire ?
Mais j'ai à dire que c'est un mensonge qui n'est pas vrai.
Non, mais donnez-nous votre version des faits.
Eh bien, plaisir. C'est que moi, il m'en revenait de Paris d'avoir marié ma petite nièce. Mmh. Alors vous comprenez, j'étais pressé de reprendre le bâton, hein ? Mais devant moi, il y avait un gars qui allait... Enfin, Alors j'ai voulu le dépasser, mais maman m'a dit pas qu'au moment où je le dépassais, il s'est rabattu sur moi. Et il est sorti avec un démon de pneu pour me baiser la gueule. Mais c'est que c'était très violent, hein. Non, mais très violent.
Mais enfin, les blessures et les ecchymoses dont Valet fait état ne se sont pas faites toutes seules.
Ah, madame, il n'en sait rien, comment ils se sont faites.
Mais si vous n'en savez rien, c'est quand même pas moi qui vais le savoir.
Oh, ben, tout ce que je sais, c'est que c'était un enfant de salaud. Un salopard.
I don't wanna see you cry. You don't have to feel this emptiness. She said I love you till the day that I die. Well, maybe she's right. Cause I don't wanna feel like I'm not me. And to be honest, I don't even know why I let myself get down in the first place. To get yourself to sleep and dream a dream of you and I. There's no need to keep an open eye. I promise I'm the one for you. Just let me hold you in these arms tonight. I'm lucky to be me. You can see it in my face. Back when I fucked my shit up too many times, why would I let myself get down in the first? She sat me down and told me that I didn't have to cry. Said I didn't need to get down or feel empty inside. And then told me that she'll love me for as long as she's alive. And well, maybe she's right. Cause I hate it when I feel like I'm not me. See, I honestly don't even know why. I honestly don't even know why.
La découverte avec effroi en 94 dans ce film de Peter Jackson, Grand Prix à Gérard May, Créature Céleste. Depuis, Kate Winslet a enchaîné de grands rôles, Titanic, Eternal Sunshine, Les Noces Rebelles, Jude ou Carnage, pour ne citer que. Impressionnante actrice qui embrasse tous les registres, toutes les femmes, jusqu'à celle-là, Ginny, ex-actrice reconvertie serveuse dans le nouveau film de Woody Allen, Wonder Wheel. Ginny noie dans l'alcool la vie qu'elle aurait dû avoir. Illusion, colère, ressentiment, tout passe avec Kate Winslet, qui livre dans Wonder Wheel sa performance la plus spectaculaire. La voici traduite par Harold Manning et doublée par Dorothée Barba.
I want to be honest with you, Mickey. I want to be honest with you, Mickey. I'm a married woman. I'm married, Mickey. I felt strange mentioning it. Not that you asked. I got myself into a bad situation. I got myself into a bad situation.
Bonjour, Kate.
Oh, bonjour. I wish I could speak French.
Oh, je voudrais parler français. Je le comprends bien. Je parle un tout petit peu. Mais j'ai honte de ne pas bien parler français.
Pourquoi?
Well,
Parce que j'ai 42 ans, j'ai passé beaucoup de temps à Paris. Je devrais parler français. Et puis un jour, j'adorerais jouer dans un film français. Ça n'arrivera jamais si j'apprends pas la langue.
On aime bien déjà votre anglais. Robert Mitchum a dit un jour, une actrice est un petit peu plus qu'une femme. Vous êtes d'accord avec ça ?
Enfin, complètement. Une actrice, c'est un petit peu plus qu'une femme. En fait, j'ai toujours voulu être un petit peu plus tout. Donc oui, c'est une excellente formule. J'aime bien cette citation.
Pensez-vous qu'on pourrait le dire de votre interprétation dans Wonder Wheel à propos de Ginny ?
Oh mon Dieu, j'arrive pas à être objective sur mon travail de comédienne, jamais. C'est toujours très difficile pour moi de commenter ce que j'ai fait. Mais le personnage de Ginny, c'était très difficile à interpréter parce qu'elle ne me ressemble en rien du tout. Il y a des choses chez elle que je trouve détestables, vraiment horribles. Elle a d'étranges qualités. C'est pas une très bonne mère, elle boit trop. Il n'y a pas que ça. C'est quelqu'un qui a tellement de regrets. Chaque jour de sa vie est complètement sous l'influence de son passé. Is absolutely informed by her past, and that's very different to me. Moi, je suis très différente. Je ne fonctionne pas du tout comme ça. C'est une femme qui a eu de si grands rêves et de si grands espoirs, et il lui reste le désir de tout changer dans sa vie, l'envie de renouveau. Il faut que tout s'améliore. Comment changer tout ça ? En fait, sa vie au jour le jour, ça va pas si mal. Elle est mariée à Humpty, c'est un brave homme, peut-être pas l'homme de ses rêves, mais c'est un type bien. Elle a un logement correct, c'est pas le grand luxe, mais ça va. Et elle prend le risque de tout balancer par la fenêtre, encore une fois, dans l'espoir d'éventuellement refaire sa vie avec Mickey, le maître nageur. Véritablement, c'est tragique de tout envoyer balader comme ça. C'est un projet fantasque, bercé d'illusions qui ne correspond pas du tout à la réalité. Elle aurait voulu un autre métier, elle aurait voulu être comédienne à succès, mais elle n'a jamais été une si bonne actrice. Même si elle y a cru, elle a cru qu'elle y arriverait. Elle additionne les rêves non réalisés, et c'est ce qui la rend fascinante et complexe.
D'ailleurs, de ce point de vue, elle me rappelle April Wheeler, votre rôle dans Les Noces Rebelles, et son sentiment d'être passé à côté de sa vie.
Je crois que c'est vrai. April a vraiment la crainte de passer à côté de sa vie, alors que Ginny a peur que la vraie vie ne lui soit déjà passée à côté et que tout espoir soit perdu. En vérité, c'est une assez grande différence, même si les deux films se déroulent pendant la même période, à Wonder Wheel en 1950 et Les Noces Rebelles un peu plus tard, en 54, je crois. Oui, 53-54. Mais en effet, ces deux femmes qui ont l'impression d'avoir été piégées par les circonstances. Ça m'a beaucoup intéressée de jouer deux femmes qui évoluent dans des univers complètement différents, dans deux classes sociales totalement différentes, et qui pourtant partagent ce sentiment d'être piégées à cette même époque, évidemment pour des raisons très, très différentes. Mais oui, deux rôles complètement différents.
Elle me rappelle aussi Blanche Dubois dans Un tramway nommé Désir, non ?
Eh bien, elle ne m'a pas vraiment rappelé Blanche. Mais je comprends pourquoi vous dites ça. En fait, j'ai moi-même dit à Woody, dans la scène finale que tu as écrite, les gens vont faire le rapprochement avec Un tramway. Parce que c'est un final qui monte crescendo, avec une femme seule qui est sur le déclin. J'étais sûre que les gens allaient les comparer. Ce jour-là, j'ai dit à Woody, tu sais, j'ai pas envie qu'elle soit comme Blanche, il faut qu'elle reste Ginny. Il faut que ce soit différent, je veux me l'approprier. Et j'ai besoin que tu m'aides à y arriver. Et il a été épatant, il m'a vraiment aidée. Mais je trouve que ce film a un côté très Tennessee Williams. Il est très proche de cette époque-là. Il a aussi cette atmosphère, cette énergie, cette chaleur, je trouve, qui est à l'origine de ces couleurs, qui rappellent l'ambiance du tramway. Donc oui, je comprends que vous disiez cela.
Plus vous mûrissez, plus vous ressemblez à Meryl Streep. J'ai l'impression que vous choisissez des rôles qu'on lui aurait confiés quand elle avait votre âge.
Well, lucky me.
Alors j'ai de la chance.
Qu'est-ce que vous admirez le plus chez elle?
Oh my gosh, I mean.
Oh mon Dieu.
You know, I think.
Je crois que pour les comédiennes de ma génération, the thing that is so ce qui est profondément important chez Meryl Streep, Judi Dench, Suzanne Sarandon, Diane Keaton, chez toutes ces merveilleuses actrices.
Hélène Mirren aussi.
Oui, Hélène Mirren aussi. C'est que ce sont toutes de très belles personnes, véritablement intègres, véritablement douées et qui continuent de travailler. L'exemple qu'elle donne aux nouvelles générations de comédiennes, c'est que pour arriver à cela, pour continuer à jouer après 60 ou 70 ans, il faut travailler dur pour y arriver. Ne jamais tomber dans la complaisance. Et selon moi, c'est un des messages les plus forts à adresser aux jeunes femmes dans tous les métiers. Donc je suis terriblement reconnaissante d'avoir ces merveilleuses aînées que nous pouvons tous admirer. C'est très, très important d'avoir des modèles.
Voilà, Kate Winslet dans Wonder Wheel de Woody Allen. Alors on va passer au film de la semaine. Jean Douchet, l'enfant agité ou le parcours d'un grand amoureux du cinéma raconté par trois garçons, Fabien Jège, Guillaume Namur et Vincent Assert. À 90 ans, oui, 90 ans, Jean Douchet parcourt encore les routes pour partager et transmettre sa passion aux spectateurs. Pas du tout didactique, une parole libre, gourmande, intelligente et généreuse. Et surtout, il apprend à ressentir le cinéma.
Oui, on l'a reçu il y a une quinzaine de jours à ce même micro. Je pense qu'on a ressenti ce qu'il appelle, lui, l'art d'aimer le cinéma. Et il y a notamment des moments très beaux d'un dialogue, par exemple, entre Arnaud Desplechin et Noémie Lvovsky sur Douchet, ou bien ses rapports aussi très privilégiés avec Xavier Beauvois. C'est vraiment un documentaire, quand on aime le cinéma, il faut aller voir Jean Douchet, l'enfant agité.
Pentagon Papers, le nouveau Spielberg, ou comment un grand journal américain, le Washington Post, a révélé les manœuvres de quatre présidents américains, Eisenhower, Kennedy, Johnson et Nixon, sur une trentaine d'années pour étouffer des secrets stratégiques sur la guerre du Vietnam, et notamment comment ces présidents ont tenté de ne pas perdre la face alors que la défaite était depuis longtemps prévisible. À la tête du journal, Catherine Graham, c'est Meryl Streep, et son rédacteur en chef, Ben Bradley, c'est Tom Hanks, qui, au péril de leur carrière et réputation, vont défier ce pouvoir. Passionnante et minutieuse description de ce parcours du combattant et grand questionnement sur la notion de risque pour un grand journal de publier. Alors à quoi bon sortir ce film maintenant? Eh bien, pour alerter l'opinion, les spectateurs, sur l'idée de vérité. À l'heure où les vraies infos doivent se battre contre les fake news, alors regardez ce film avec cette idée en tête et ça devient passionnant. Spielberg filme la presse et ses valeurs comme une espèce en voie de disparition et ses rotatifs comme des animaux préhistoriques, impressionnant comme sa mise en scène toujours aussi fluide, claire, ludique. Au milieu, il y a un très grand personnage féminin, c'est Catherine Graham, incarnée par Meryl Streep, patronne malgré elle et qui va devoir affronter tous ses costumes, cravates, machos de la haute finance, celle aussi qui allait mener campagne contre Nixon ensuite le Watergate, et même pas représentée dans le film de Sidney Pollack, pourtant inspiré de la réalité, Les Hommes du Président. Catherine Graham a écrit sa bio, Personal History, prix Pulitzer de la biographie, traduit dans toute l'Europe, sauf en France. Ami éditeur, à bon entendeur.
Ah ben le problème c'est que quand même c'est pas dans la vraie vie quoi, c'est pas du tout le c'est pas le Washington Post, c'est le New York Times.
Oui,
ça c'est le début. Ah ben
non mais c'est super
de faire un film entier sur ce qui n'est tout de même une histoire réelle, c'est-à-dire que les journalistes qui ont pris le risque, ce sont ceux du New York Times et pas le Washington Post. Et Spielberg arrive pourquoi? Ben pour nous faire à nouveau une ode à la presse libre, les critiques des politiques bien sûr qui sont tous des pourris, la flamme patriotique, on y va franchement, et évidemment, il est habile, le bougre, un portrait typiquement féminin de la femme qui va prendre son indépendance dans le Hollywood actuel, ça va faire des points. C'est quand même d'une roublardise incroyable, tout ça en fait, effectivement, pour ne pas parler du réel. Alors le réel, moi je l'ai vu sur Arte, avec une série documentaire qui s'appelle Vietnam, 9 heures de documentaire sur le Vietnam qui sont extraordinaires, c'est ça dont devrait parler à la limite Pentagon Papers, et ça n'est pas le cas.
Pentagon Papers, donc, grand film de...
surtout, vous pouvez aller sur YouTube et trouver toutes les informations sur ce qui s'est réellement passé à l'époque. C'est une affaire absolument incroyable, ouais, de haute volée de journalistique et que, qui devrait servir d'exemple aujourd'hui.
Exactement, et c'est ce que ce film démontre. Fortunata de, merci Mathieu, c'est Fortunata de Sergio Castellitto. Fortunata, une fille de 8 ans et un mariage raté derrière elle, elle est coiffeuse à domicile, vit en banlieue, traverse la ville dans les appartements bourgeois pour aller colorer les cheveux des femmes, elle se bat tous les jours et elle, c'est Jasmine Trinca. C'est un mélo coloré, énergique, assumé et complètement dominé par cette actrice magnifique, Jasmine Trinca, qu'on avait découverte dans Nos meilleures années et qui irradie totalement ce film, Laurent.
Oui, c'est un gros mélo lourdingue, hein. C'est quand même comme ça que ça peut être dit aussi, hein, parce que Fortunata, c'est quand même Cosette à la puissance 22, quoi. Donc au bout d'un moment, on en a ras la casquette de cette espèce d'avalanche qui lui tombe dessus en permanence, à chaque fois qu'il y a un avion qui s'écrase sur ses pieds, comme Coluche, quoi. Voilà. Et effectivement, Jasmine Trinca, qu'on a vu, vous l'avez produit dans ce film, chez Moretti également, et qui, heureusement, sauve la mise. Mais on reverra, est-ce qu'une actrice, un acteur, peut sauver un mauvais film? C'est, il y a débat.
Marie Curie de Marie-Noël, physicienne chimiste. Marie Curie, pionnière dans l'étude de la radioactivité. Elle travaille main dans la main avec son mari Pierre Curie. Plus féministe que scientifique, ce biopic sur l'affranchissement d'une femme qui pourrait tomber à pic en ce moment, mais qui en même temps n'alimente pas beaucoup la réflexion parce que trop académique et romancée. Et une question, le grand acteur polonais Daniel Olbryski, pourquoi joue-t-il en français et doublé? J'ai pas compris ça.
Moi non plus. Il n'y a pas grand-chose que j'ai compris dans le film, d'ailleurs.
Anna, de Andrea Palaoro, avec Charlotte Rampling. Anna, qui dresse le portrait intime d'une femme dont la vie bascule après l'arrestation de son mari.
Mais oui, alors c'est une suite de scènes...
Vous n'aimez rien cette semaine. Hein.
C'est une suite de scènes façon Martine à la plage. Hein. Alors on a trash et glauque. Anna et son chien, Anna à la piscine, Anna dans son lit, Anna dans le métro, Anna avec son mari. Bon, et tout ça est entièrement centré sur elle, sur le personnage de Charlotte Rampling, mais beaucoup plus sur Charlotte Rampling, l'actrice. Et le film est volontairement décousu, allusif, à force de blanc que le spectateur est chargé de remplir. Moi, au bout d'un moment, quand on me demande autant et qu'on me donne si peu, j'ai envie de dire qu'à force de filmer le vide abyssal, eh ben, on finit par y tomber.
Bon, cette fois, c'est moi qui vais être négative aussi. The Greatest Showman de Michael Gracie avec Hugh Jackman. C'est bien sûr la naissance du show business et puis celle de Barnum. L'histoire d'un visionnaire parti de rien qui a créé un spectacle devenu un phénomène planétaire. Alors, si vous trouvez que Baz Luhrmann est kitsch, alors lui, il en a inventé la définition avec un superlatif kitschissime, une immense pub moche, assourdissante, gnangnan, épuisante. Quant à son plaidoyer contre la différence, puisqu'il engageait femme à barbe, géant et nain, on préférera à cette vision d'opérette celle, bien sûr, de Todd Browning. On va quand même, on va terminer par un très grand film, La Douleur, oui, d'Emmanuel Finkiel, Laurent.
Ben oui, ça nous donne à entendre pas la voix, mais l'écriture de Duras, puisqu'il y a la voix off est très présente, mais à très très bon escient, et dite par Mélanie Thierry, qui trouve ici, pour l'instant, le rôle de sa vie. Sa vie n'est pas terminée, bon, mais vraiment, c'est ce qu'elle a fait de plus beau, et c'est servi par la cinématographie d'Emmanuel Finkiel, qui a une façon de restaurer les choses, tout en finesse, tout en intelligence, c'est une épure parfaite d'un grand livre.
Et on va peut-être terminer avec deux cadeaux. On va commencer par votre gros livre, Laurent.
Oh, mon gros livre qui s'appelle Les Maîtres d'Hollywood, entretien avec Peter Bogdanovich, j'y suis arrivé. Fritz Lang, George Cukor, Alan Dwan, Leo McCarey, Raoul Walsh, Howard Hawks, Joseph Van Sternberg. C'est très intéressant, c'est que c'est un cinéaste qui interroge des cinéastes. Donc c'est une parole autorisée en quelque sorte, et il va très très loin dans la façon de faire de tous ces grands noms du cinéma américain. Je pense que ça peut vous intéresser. C'est un premier volume chez Capricci.
Vous vouliez faire
J'avais envie de faire ça.
D'aller voir les réalisateurs.
Ouais, je suis pas un réalisateur assez réputé pour ça, mais je voulais aller voir les réalisateurs, faire des discussions de réalisateurs.
Alors avec qui, par exemple?
Bah, moi, les réalisateurs qui m'inspirent, mais bon, non, en fait, c'était juste pour aller passer quelques jours avec Spielberg.
C'est ça.
C'est ça. J'ai eu la chance de travailler avec lui.
Mais
c'est pas la même chose. J'ai envie de m'asseoir avec lui et de parler cinéma et de comprendre comment il arrive à se renouveler à ce point et être aussi, tout dépend des films, mais être aussi pointu dans son métier, quoi. C'est vraiment pour un cinéaste, c'est comme voir un, je sais pas, c'est le maître, une telle maîtrise de, c'est difficile à comprendre parce que la mise en scène aujourd'hui n'existe plus réellement, le cinéma a tellement est passé tellement à un autre niveau depuis l'âge du digital que on n'a plus vraiment de référence à ce que c'est qu'un plan séquence, à quoi servir la caméra, à quoi servent le montage, on sait, c'est maintenant complètement galvaudé. Lui, il a un respect total de cet art qu'il a créé aussi
et un enthousiasme aussi.
C'est
encore,
un maestro, et à voir tourner, c'est beau à voir. C'est con à dire, mais c'est beau à voir. C'est comme voir un beau boxeur. C'est comme, mais on apprécie mieux si on connaît en plus les techniques et si on connaît les problèmes qu'il faut surmonter. Donc moi j'ai eu la chance de travailler avec de voir travailler tous les jours.
Le
deuxième cadeau spécial Christine.
Vous êtes pas fan de peut-être de Rocky, mais c'est un truc génial. C'est Rockyrama, le meilleur fanzine de l'univers. Rien que ça, numéro 17 novembre. Wow. Autour du film, certes, mais aussi de cette Amérique-là et de Stallone, amateur d'art, c'est lui qui dit la peinture attaque les sens, des affiches étrangères inédites et aussi un chapitre sur Bill Conti. Et ce qui est fou dans le chapitre, c'est qu'on apprend, on apprend que la musique, figurez-vous, a été enregistrée, Mathieu, en 3 heures, ouais. Et que ce morceau qui est devenu célèbre dans le monde entier a été enregistré le dernier, quoi. Et c'est le seul qui a accepté à l'époque de bien faire la musique de Rocky. C'est une très jolie, très chouette revue, vraiment.
C'était considéré comme un film de bas étage, qui n'a aucune valeur artistique. Ouais, c'est ça qui est intéressant. Moi, je suis pas un fan des films parce que les films sont ce qu'ils sont. Mais le personnage est absolument incroyable, sa destinée, c'est le personnage de cinéma le plus connu, le plus important, avec James Bond peut-être.
Merci Mathieu Kassovitz, vous êtes à l'affiche donc de Sparring qui sort mercredi prochain. On se dit au revoir et générique.
This program was inspired by cinema.
C'est une émission inspirée par tous les films de cinéma. Il y a des réalisateurs et des acteurs.
It was filmed in sound, it's radio.
Il y a aussi des scénaristes et des chefs opérateurs.
The title music was written by Sporto Cantes.
Les morceaux ont été choisis par Muriel Pérez.
Martin Messonnier prepared the show.
C'est une émission réalisée par Sonny Leglen.
Christine Masson and Laurent Delmas produced and presented. And I, Kate Winslet, was in it.
Et moi, Madeleine Gendlerwick, j'y étais.
Et moi, Kate Winslet, j'y étais.
Merci Julien Michel d'avoir été aux manettes aujourd'hui. Dans quelques minutes, vous serez sur les épaules de Darwin. Mais pour l'instant, il est 11h sur Inter.